Bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur Micro Rebelle dans la rubrique L'actualité vue par les jeunes. Nous sommes en direct avec Mélissa, Nicolas, Sarah, Jonathan, Julie et moi-même Aurélie. L'émission sera aujourd'hui co-animée. On se retrouve donc pour parler d'Internet et particulièrement de ses dérives. Restez branchés. Donc aujourd'hui, on est donc ici pour parler d'Internet, de ses dangers, mais aussi de cette évolution technologique assez grandiose qui a marqué le siècle, il faut le dire. Tout d'abord, on va commencer par un petit quiz culturel, c'est un petit point culture du coup. Qui sait quand a été inventé Internet, donc par qui, comment et pourquoi? Quelqu'un a une idée?
Moi je sais, mais c'est parce que j'ai fait des recherches avant, alors du coup on triche. C'était inventé dans les années 80, il me semble, et je crois qu'au départ c'était juste pour les Américains. En fait, ils se transmettaient des messages entre eux au niveau de la sécurité nationale, etc.
Il me semble d'ailleurs que c'était, selon mes recherches, parce que oui, on triche un petit peu ici, hein, c'était par une entreprise privée en fait, nommée Bolt, Beranek et Neumann. On salue mon accent anglais, hein, bien sûr. Donc voilà, c'était à la base c'était quelques ordinateurs et ça s'est développé ensuite et c'est devenu finalement public. Donc selon vous, pourquoi aujourd'hui il y a autant de navigateurs internet? Parce que c'est vrai qu'entre Google, Safari, Opera il me semble aussi, et même Internet Explorer, ça reste un navigateur. Pourquoi selon vous un seul ne suffit pas?
Bah, chacun veut le sien pour faire un peu d'argent. Après Safari, c'est parce que Apple veut son propre navigateur. Google veut être un peu partout et Firefox, faut pas oublier, c'est parce qu'ils veulent quelque chose qui est indépendant, fait par des bénévoles, etc. Donc chacun a un peu son idéologie et à mon avis, faire un peu d'argent aussi avec ça.
D'ailleurs, il me semble que maintenant ça me revient en tête qu'il y avait un navigateur, je me souviens plus de son nom, mais parfois il y a des navigateurs qui sont créés pour reverser de l'argent dans les pays, par exemple en Afrique ou bien, enfin, voilà. Et chaque recherche, ça nous donne sous forme de gouttes, il me semble, et au bout de 100 gouttes, on peut faire un don à une association. Voilà, donc c'est un concept aussi qui marche assez bien. Donc ensuite, je pense que les navigateurs type Google et tout, c'est quand même assez, c'est mondial, il faut le dire, c'est international. Et je pense que il me semble que Google est le leader, enfin, qui est vraiment en tête parmi ces navigateurs. D'ailleurs, lequel utilisez-vous? Mélissa, peut-être. Après Sarah.
Comme navigateur, j'ai tendance à utiliser Google parce que c'est assez rapide en fait. Voilà quoi.
En fait, le truc c'est que Safari, c'est pas. Disons que Safari c'est plus le nom d'application et Safari tourne sur Google. Du coup, c'est un peu un mélange des deux. Safari, il a pas sa propre plateforme. En fait, il utilise Google et c'est juste que le nom de l'application dans vos iPhones, dans vos Mac, etc. C'est Safari. Mais donc du coup, voilà. Mais c'est Je ne sais pas pourquoi vous utilisez Google, etc. Je pense que c'est une question de... Après, on choisit notre navigateur en fonction de nos appareils, etc. Moi, je sais que de toute façon, je n'installerai pas Google pour l'instant parce que je suis en Apple partout. Et donc, du coup, en fait, mes données sont liées. Je peux avoir mon historique d'ordinateur sur mon iPhone, etc. Et ce genre de trucs. Donc, c'est pour ça que j'utilise ce genre de trucs.
Ok, d'accord, je vois. Jonathan, peut-être? Quel navigateur utilises-tu?
Ah, moi, juste Internet Explorer, c'est tout.
D'accord, d'ailleurs, Internet Explorer, il reçoit beaucoup de critiques au niveau de sa lenteur. Vous trouvez que c'est un navigateur lent?
Ouais, on le voit, enfin moi je le vois surtout au bahut, etc. Les ordis, ils ont du mal, quoi. On a Mozilla, et on a Firefox et Internet Explorer, et en général, tu prends pas Internet Explorer. Parce qu'il est... Je sais pas si c'est parce qu'il est... Ça fait longtemps qu'il est sur les plateformes, etc. Mais ils font pas de mise à jour. En fait, ils tournent encore comme nos vieux MSN. Du coup, forcément, ça commence à planter.
Après, comme ils font pas de mise à jour, c'est aussi plus facile de choper des virus sur ton Internet Explorer que sur Chrome ou sur Firefox, quoi. Donc, c'est ça le souci aussi.
C'est vrai que ça peut poser pas mal de soucis. D'ailleurs, on a tendance à croire qu'on peut tout faire sur Internet. On se croit assez libre parce qu'on peut faire des recherches facilement. Il n'y a pas vraiment de contrôle en général. Quand on est adulte, quand on est enfant, on a les contrôles parentaux. Après, ça dépend des parents, mais voilà. Mais est-ce qu'on peut tout faire sur Internet? Enfin, est-ce qu'il y a des lois qu'on devrait connaître avant de s'y aventurer?
Je t'avoue que j'en ai aucune idée. Je pense qu'il y a des lois, mais qui sont... Vous savez, c'est un peu comme les lois d'un État, etc. En fait, c'est des petits points dans des petites lois qui sont perdus au fin fond de tu sais pas quel traité. Et donc, du coup, en fait, Internet, c'est très libre. Je pense qu'il faut faire attention, c'est des points de détail, en fait. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas énormément de lois... Disons qu'il n'y a pas beaucoup de lois qu'on connaisse, parce que c'est pas des lois qui... Je sais pas trop comment expliquer ça. C'est pas des lois qui nous concernent, on va dire. C'est pas des lois qui... Enfin, on se sent pas concerné par ces lois, alors du coup, on y fait juste pas attention.
J'ai posé la question à mon père il y a pas longtemps, qui est informaticien. Il m'a répondu que sur Internet, tu peux tout faire dans la limite où tu fais pas choper. Donc, à partir de ce moment-là... voilà. Après, il y a Adopi, etc., où au niveau des téléchargements, tu peux te faire avoir... C'est un ou deux avertissements. Je sais pas si c'est un avertissement ou deux avertissements.
Il me semble que c'est un.
Un avertissement, et après...
C'est pour le téléchargement illégal, du coup, Adopi. Mais il y a aussi... après, c'est des lois un peu simples, on va dire, par exemple, le fait de prendre une photo de quelqu'un et la diffuser sur Internet. La personne peut très bien porter plainte, parce qu'on a pas le droit de diffuser une photo sans l'accord d'une personne. Après, voilà, c'est des lois qu'on connaît pas forcément, mais par exemple, aujourd'hui, sur le harcèlement, maintenant, certaines personnes qui sont touchées par ça, ou qui ont, par exemple, il y a eu un cas de suicide ou quoi, essayent de se battre contre ça et essayent de créer des lois. Enfin, de faire créer des lois dans les pays où il serait interdit de harceler quelqu'un sur Internet. Après, c'est toujours en cours parce que c'est assez difficile en fait, vu que ces personnes, enfin les juges, les avocats considèrent que, et même les médecins considèrent que ce type d'harcèlement c'est plutôt psychologique et c'est pas vraiment physique comme on peut le voir le harcèlement dans la rue ou ce genre de choses. Bon, le harcèlement en général dans le monde, il n'est pas vraiment très défendu. C'est une cause qui est vraiment ignorée en fait, par autant par les gens que par ceux qui sont nos dirigeants. Donc voilà.
Au niveau des lois, je ne sais pas si ça existe, mais déjà dans la vie de tous les jours, on n'a pas le droit d'utiliser l'identité de quelqu'un d'autre. Donc sur Internet, c'est la même chose. On n'a pas le droit, par exemple sur Facebook, de mettre en photo de profil une photo d'une autre personne et se faire passer pour celle-ci, quoi. Donc je pense que ça doit faire partie des lois aussi.
C'est vrai que c'est assez libre.
Le problème, c'est que, comme tu le dis, Mélissa, t'as pas le droit. Sauf qu'en fait, sur Internet, tu peux pas le vérifier. Ouais. Et c'est ça qui bloque les gens. C'est pareil pour le harcèlement. En fait, par exemple, moi, j'envoie, etc., sur Facebook. Je connais des gens qui se sont fait harceler sur Internet, etc. Et c'est un truc que je ne tolère pas du tout. Mais en fait, t'auras beau aller voir la justice et dire « Ouais, on m'a harcelé, etc. » Et t'auras beau avoir des preuves, les gens, ils diront « Bah non, on peut pas. On peut rien faire. Internet, c'est trop libre. » Et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'en fait, comme là tu le dis avec Mélissa, l'usurpation d'identité c'est interdit, c'est genre tu fais de la prison et tout pour ça. Sauf que sur Internet, tu peux pas savoir si... Enfin, par exemple, s'il y a quelqu'un qui crée un compte à un moment ou un autre avec ton prénom et qui met tes dates de naissance, etc. parce qu'il les aura trouvés sur n'importe quel serveur, en fait tu peux pas savoir si c'est... Déjà tu peux pas savoir qui l'a créé, à part si hacker, machin, truc, muche et tout, tu remontes les adresses IP, mais ça, l'État te le dira jamais, enfin te dira jamais qu'il l'a fait. Et ensuite... il peut pas dire... Enfin, en fait, toi, t'auras beau dire c'est pas moi, etc. Il va falloir des milliards de preuves pour prouver que c'est pas toi qui a créé ce compte et tout. Et donc, du coup, c'est pour ça, c'est ça le vrai problème. C'est qu'il y a beaucoup trop de liberté.
C'est vrai que les libertés sur Internet sont vraiment inimaginables. C'est vrai que c'est un point où, c'est un point auquel je pense que les dirigeants et même les États en général devraient plus bloquer. Bon, après, je parle pas de bloquer dans le sens comme la Chine communiste qui nous bloque Facebook et tous les autres médias pour contrôler l'opinion publique, l'esprit des gens, on va dire. Donc, après... C'est une façon de voir. D'ailleurs, Internet, c'est avant tout 90% de ce qu'on ne connaît pas, puisque en effet, on ne connaît que 10% du potentiel d'Internet. Il existe d'ailleurs le Deep ou le Dark Web, je ne sais pas vraiment comment on dit, ça dépend des gens. Mais voilà. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que vous en pensez, Mélissa?
Donc, je crois que c'est l'Internet dont on n'a pas vraiment accès, enfin, à part les grands hackers et tout. C'est aussi un espace assez dangereux, où on peut tomber sur de sales personnes, en fait, qui sont très, très douées dans Internet et qui peuvent nous hacker très facilement. Enfin, je sais pas trop. Vous en pensez quoi?
Le Darknet, c'est un réseau, en fait, ça fonctionne un peu comme un réseau mafieux, c'est que des trucs illégaux, etc. Les armes, la drogue, tout ce qui est commerce d'êtres humains, commerce d'organes, etc. C'est par là que ça, c'est dans ça que ça tourne. Et donc, du coup, comme tu le dis, Mélissa, c'est genre, en fait, c'est dirigé par des hackers que personne ne connaît, qui ont des pseudos et c'est impossible de les retracer. Et en fait, c'est pour ça que c'est dangereux, parce que c'est que des trucs illégaux, et donc du coup, quand tu commences à t'enfoncer dans ça, c'est fini, quoi. Tu joues ta vie. Et deux, c'est super difficile à fermer. Parce que les gens, ils sont tellement bons en hackage, etc. Dans ces navigateurs-là, qu'en fait, c'est difficile de les retracer. Et le problème, c'est qu'ils sont, en fait, dans notre état, ou par exemple dans nos organisations nationales, etc., on n'a pas d'aussi bons hackers que ceux qui dirigent le dark web, alors du coup c'est genre super compliqué.
En fait, t'as pas besoin d'être un grand hacker ou même un hacker pour arriver sur le deep web. C'est juste que tout le deep web, c'est des adresses auxquelles t'as pas accès avec les navigateurs classiques. Par exemple, tu vas taper l'adresse sur Chrome, sur Firefox, même si t'as la bonne adresse, ça va pas te la trouver, ça va faire adresse introuvable, alors 404, je ne sais quoi. Faut aller sur des navigateurs spécialisés, Tor, c'est le plus connu. Et oui, puis après, c'est tout ce qui est illégal, etc. On y allait avec... j'ai un pote qui y allait, et c'est varié, très divers. Il y a des photos, ça fait froid dans le dos, des fois.
C'est vrai que... C'est vrai que c'est vachement le deep web. Après, je pense que c'est pas si dur d'y rentrer, mais je pense que d'y sortir, c'est un peu plus dur. Je connais un ami qui a été, il a pas pensé, en fait. Quand on va sur ce genre de navigateur, c'est pas vraiment un navigateur, mais voilà, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment déjà avoir un ordinateur assez puissant pour supporter la charge. Parce que bon, après, ou bien avoir un ordinateur dont on s'en fiche totalement et qu'on pourra jeter après, parce que voilà, c'est on peut facilement se faire attraper. D'ailleurs, il faut savoir que le deep web, souvent, c'est construit d'une telle façon où il y a souvent des énigmes à trouver, en fait, et c'est des gens qui pratiquent le codage ou quoi, qui arrivent à les résoudre. Et en effet, il y a du trafic d'armes, il y a du trafic d'enfants, il y a du trafic... tu peux faire tuer un président ou quoi, comme ça. Souvent, c'est des assassinats commandés. Et c'est sur monnaie, je ne sais plus comment elle s'appelle, la monnaie. Mais il y a une monnaie spéciale, c'est pas en euros. Mais je sais qu'il me semble que j'avais déjà regardé, je m'étais renseignée là-dessus pour Mélissa, parce que tu m'avais demandé un jour de t'expliquer. Il me semble que 200 euros dans la vie réelle, ça correspond à 1 euro, on va dire, là-bas. Donc pour dire une arme, ça doit coûter très très cher, et même faire tuer quelqu'un, faut y aller, quoi. Donc après, je pense que il faut pas tenir du tout à son ordinateur ou à son disque dur. Et les hackers là-bas sont des personnes plutôt douées. Je sais qu'un ami s'était fait pris son adresse, le nom de sa copine, le nom de sa mère, le nom de son père. Et le hacker est arrivé en lui disant, tu t'appelles, t'as tel nom, t'habites telle rue, t'habites telle ville, et ton numéro de téléphone c'est ça, tes parents s'appellent comme ça, ta mère elle fait tel boulot. Il a un peu flippé et du coup il s'est cassé directement, mais c'est vrai que c'est un point assez mystérieux, et d'ailleurs beaucoup s'y aventurent. Donc voilà. On va continuer sur un peu plus soft. Du coup, à quel âge avez-vous commencé à traîner sur le net ?
Ça dépend ce qu'on appelle le net, en fait. C'est tout ce qui est, par exemple, réseaux sociaux, etc. Je m'y suis mis hyper tard, enfin, par rapport à ce qu'on pourrait dire, je crois que j'y suis allé vers 13-14 ans, tout ce qui est Facebook et tout. Maintenant, tout ce qui est jeux en ligne, etc., j'y suis allé un peu plus tôt, quoi.
D'accord. Mélissa ?
Je pense qu'on est une génération qui baignons dedans depuis qu'on est tout petit. Donc moi, Internet, bon, je me souviens plus la première fois quand j'y suis allée. Mais c'est vrai que, par exemple, bon, Facebook, j'y suis allée quand j'avais, je crois, 12-13 ans, donc assez tard, quoi.
On dit que c'est assez tard, mais il faut rappeler que sur Facebook, l'âge pour y accéder 13. Est quand même 13 ans. Ouais, 13 ans. Donc 12 ans, c'est quand même assez tôt. Jonathan, peut-être ?
Alors, je sais même pas, moi. Alors, Facebook, tard, je pense aussi. Quel âge, je sais pas. Mais j'ai commencé peut-être à partir de la 6e à aller sur Internet.
Sachant que tu as 20 ans. Donc... Donc voilà. Julie, peut-être ?
À partir de la 6e, quand j'ai eu mon premier téléphone, je suis allée sur Internet.
Et tu avais quel âge ?
10 ans à peu près, ou je n'en sais plus.
Ouais, 10-11 ans, 6e.
D'accord. Moi, personnellement, j'ai eu un téléphone portable à mes 9 ans. J'ai commencé très tôt. Hein. Je me suis dit, attends. Wow. Et en tant que, oui, oui. 9 ans. Bon, c'est parce que je partais à pied à l'école et ma mère avait un petit peu peur. J'ai quand même 2 km, du coup, elle flippait un peu. Mais au niveau de Facebook, je crois que j'ai commencé en allant sur le compte de ma mère à mes 11 ans. J'ai eu mon propre compte, je crois, à mes 12 ans. Donc forcément, il fallait mentir sur la date de naissance. Hein. On va pas se le cacher, on l'a déjà tous fait, je pense, ceux qui ont Facebook.
Je suis né en 87, il n'y a pas de souci.
Bah voilà. Non, mais après... Et Internet, je pense, j'ai commencé vers... peut-être mes 8-9 ans, quoi. J'ai commencé vraiment très tôt, moi. Donc voilà. On va prendre une courte pause avec la musique Artegon Sweetheart. Donc on se retrouve après, c'est Sarah qui animera la prochaine partie et ça sera les bienfaits d'Internet. A tout de suite.
Générale sur Internet. Et avant de parler des dangers, on va parler des bienfaits d'Internet, parce que ça a quand même des bienfaits. Alors, au quotidien, qu'est-ce que ça vous apporte, Internet ?
Mélissa, vas-y.
Par exemple, pour faire les devoirs, ça aide. Pour aussi communiquer avec la famille, c'est plutôt pas mal. Puis parfois, donc, ça a aussi, bien sûr, un côté ludique. Quand je m'ennuie, par exemple, je vais sur des jeux. Enfin, voilà, quoi.
Bah moi je pense que c'est surtout pour les recherches, au niveau des cours et tout, mais aussi au niveau, bah moi j'aime bien regarder des films, je me cache pas, je regarde des films en streaming, hein, c'est pas bien, mais bon tout le monde le fait, donc voilà,
chante
l'excuse, hein. Mais voilà, mais c'est surtout pour regarder des séries, ce genre de choses, ou des vidéos YouTube, enfin vraiment pour me divertir quoi. Jonathan peut-être ?
Bon, bah oui ça a tout dit, moi le plus souvent que je fais sur Internet c'est quoi, c'est sur mes jeux en ligne. ou je regarde des séries à la télé. Voilà, c'est tout.
Bah, moi, c'est les jeux en ligne en général. Fait, tout ce qui est réseaux sociaux, j'y vais pas des masses. Je dois y aller deux fois dans la semaine.
Tu n'y vas pas des masses.
Et comme moi, je vais sur Internet, surtout pour les divertissements. Genre vidéo YouTube ou série, en streaming.
Ouais, aussi YouTube. J'avais oublié.
Alors du coup, vous parliez des réseaux sociaux, etc. Nicole a dit qu'il n'y allait pas souvent. Je pense qu'en général, en tant que génération numérique, on va dire, on va beaucoup sur les réseaux sociaux. On a été baigné dedans depuis tout petit. Donc c'est une invention qui a des bons côtés. Est-ce que vous êtes adepte ou pas vraiment des réseaux sociaux ?
Bah, moi, personnellement, je suis adepte. Bon, après, j'ai eu des sales tours avec des photos Facebook que j'avais publiées, qui se sont retrouvées sur des sites un peu louches quand même. Et il y a un homme qui m'a prévenu, enfin, qui m'a ajouté sur Facebook et qui m'a dit « Ah, mais toi, tu m'as bien chauffé sur tel site. » Je fais « Mais de quoi tu me parles ? Moi, je te connais pas. » Et il m'a fait « Mais si tes photos, elles sont sur la catégorie hentai sur tel site. » Il dit « Franchement, ça se fait pas. » Hein. Je fais bah écoutez, moi j'ai jamais posté ma photo, je vais pas sur ce genre de site, moi j'ai tranquille en train de regarder une vidéo, qu'est-ce que vous me dites quoi. Et du coup, ouais, bon après je suis adepte, mais sous une certaine mesure, genre vraiment que pour les amis. Avant j'avais peut-être 500 amis Facebook, je suis passée à peut-être 100 amis, voilà, et toutes les semaines je fais un petit tri pour voir les gens qui sont actifs, qui sont pas actifs, et je les vire, parce que ben clairement, voilà, ça fait un peu peur quand même quand on peut voir ce qu'on peut faire avec des photos quoi.
Bah, moi je suis plutôt adepte des réseaux sociaux, mais je m'en méfie fortement parce que je pense qu'il faut pas publier tout et n'importe quoi. Je pense qu'il y a aussi trop de personnes qui disent ce qu'ils font. Par exemple, je pense à Snap, les gens ils prennent des photos, ça y est, tout le monde sait ce qu'on est en train de faire et tout. Ou alors les gens qui vont poster sur Twitter, je fais à manger, je suis en sortie, je fais pipi, je fais caca, bon bah on s'en fout un petit peu quoi, donc ça ne nous regarde pas en fait. Donc voilà, enfin c'est bien, mais il faut faire attention à ce qu'on peut.
J'aime bien les réseaux sociaux dans tout ce qui est au niveau des, pas forcément au niveau des publications des gens, mais au niveau des pages qui peuvent regrouper les gens, parce que là je trouve que ça porte bien son nom de réseau social, parce que les gens peuvent échanger autour d'un thème qui est commun. Maintenant tous ceux qui postent sur leur vie ou je trouve que c'est une mise en avant de sa vie, je comprends pas trop le principe en fait de base.
Alors du coup, réseaux sociaux, ça veut dire, comme le disait Mélissa, Snapchat, Facebook, Twitter et tous les trucs comme ça. Mais les réseaux sociaux aussi, c'est aussi les sites de rencontres. Et donc du coup, moi je voulais savoir, est-ce que vous êtes déjà allé, rien que par curiosité, sur un site de rencontre ou pas ?
Par curiosité, ouais, pour voir un peu. Bon après, c'était pas vraiment dans un but vraiment, voilà, juste regarder, bon, il y a des gens vraiment, ça m'a trop fait rire, mais après, ouais, c'est sûr, je pense qu'on a tous, peut-être pas Mélissa, je pense pas, ni Jonathan, mais, allez, c'est des sites de rencontre.
Attends, alors, avant que je connaisse Mélissa, je voulais voir par curiosité, j'ai toujours bloqué la page d'accueil, j'ai jamais accédé à l'intérieur, donc je peux pas.
Bah, c'est assez bizarre quand même. Mais moi, personnellement, j'ai déjà été voir après par curiosité. On peut faire des bonnes rencontres, mais parfois, il y a des gens vraiment... on sait pas d'où ils sortent. Hein.
Ouais.
Personnellement, j'y suis jamais allée parce que je privilégie largement les rencontres en dehors d'Internet. Je préfère les rencontres qui se passent dans la vie réelle, en fait. Parce que sur Internet, on sait jamais à qui on a affaire. Derrière les écrans, bon, ils peuvent nous mentir, c'est très facile. Donc voilà, donc ça m'intéresse pas, en fait.
Puis je pense personnellement que les relations comme ça, ça peut pas vraiment marcher. J'ai déjà vu des gens, j'ai déjà eu des rendez-vous quoi avec des gens que je connaissais pas. Et franchement, c'est vraiment bizarre quoi. T'arrives comme ça et tu les connais pas vraiment. Et du coup, c'est mieux d'avoir rencontré la personne dans un cadre extérieur, genre avec tes amis ou quoi. Mais franchement, c'est vraiment bizarre quand tu vois une personne pour la première fois ou quoi. T'es mode ok, d'accord, qu'est-ce que je vais dire ?
Et du coup, sur les réseaux sociaux, on quitte les sites de rencontres, mais on revient un peu à Facebook, etc. Qu'est-ce que vous pensez des pages, comme par exemple, moi je sais que je fais partie d'une page qui concerne ma ville, et en fait on fait des petites sortes de petites affaires entre les deux, etc. Si quelqu'un a perdu son chien aussi, on l'aide. Qu'est-ce que vous pensez de ça, ce sort de réseau qui s'est créé à travers les réseaux sociaux et qui favorise plutôt l'entraide ?
Bah moi je pense que c'est plutôt pas mal déjà dans le fait que par exemple si on a perdu notre animal ou quoi, on peut essayer de le retrouver. C'est une bonne idée. Bon après, moi je suis pas... Voilà, c'est bien, quoi. Moi, je suis dessus aussi, je regarde parfois, même les groupes de bonnes affaires et tout, où les gens, ils vendent des trucs, je regarde parfois, ou bien pour se tenir informé un peu de la vie de la commune. C'est des choses bien, et puis pour revenir sur les animaux, c'est bien. Bon, après, c'est vrai que faut remplir... Il me semble qu'il y a des conditions à remplir quand on veut mettre qu'on a un chat perdu ou quelque chose du genre.
Ben, je trouve que c'est une belle initiative, quand même, de pouvoir demander de l'aide comme ça à travers les réseaux sociaux. Bon, après, c'est vrai qu'effectivement, il y a quand même des conditions à remplir. Bon, elles sont pas énormes, mais il y en a quelques-unes quand même. Donc, bon, je trouve que ça reste bien quand même, quoi.
Alors, pour les pages, je trouve que c'est bien. Et petite pub, Micro Rebelle a fait une page Facebook sur Internet. Donc, tapez Micro Rebelle et vous allez nous retrouver sur Facebook. Voilà.
Merci, Jonathan. Alors, on parle souvent maintenant de la génération Y pour les écouteurs en forme de Y, etc. Parce que les jeunes, en général, quand les adultes les voient, ils ont souvent des écouteurs sur les oreilles quand ils sortent dans la rue, même parfois quand ils parlent entre eux, etc. Est-ce que vous vous sentez de cette génération? Est-ce que vous pensez que vous en faites partie ou pas du tout?
Bon, déjà, merci à toi, Sarah, parce que je n'aurais jamais deviné le Y pour les écouteurs, franchement... Voilà, je deviens déjà vieille, c'est dommage. Mais pour revenir sur cette génération, je sais pas vraiment si j'en fais partie, peut-être. Mais je me sens pas vraiment appartenir à une génération en vrai. Mais je pense d'un côté, puisqu'on est vachement ultra connectés, je trouve quand même. On est la génération, je pense, qu'elle puce son téléphone dans les mains et ce genre de choses. Et par rapport à nos parents ou nos grands-parents, c'est... Je pense qu'on profite moins du moment présent. Après, bon, de là, appartenir à une génération... Peut-être, hein, qui sait. Jonathan ?
Je sais pas du tout quoi répondre. Ah ouais, parce que, à part que j'aime bien mettre mon casque pour sortir à côté de la musique, mais sinon, c'est tout, quoi.
Bah voilà, je pense pas qu'on se sente appartenir à une certaine génération en particulier, c'est juste, je sais pas, mode de vie qui change, etc. Et je prends pas ça comme un groupe, en fait, c'est juste... une appellation qu'on nous octroie.
Ouais. Et toi, Julie, parce que t'es un peu plus jeune que nous, du coup, tu passes... Enfin, je pense, personnellement, je me considère pas être comme de cette génération, puisque on a beau être une génération hyper connectée, etc., et qui vivons tout le temps avec nos téléphones dans les poches et tout, je pense qu'on a pris conscience au fur et à mesure qu'on peut pas tout faire avec un téléphone et qu'il faut quand même s'ouvrir sur le monde et qu'on a besoin de parler avec les uns et avec les autres. Par contre, Julie, toi, t'es d'une génération... Enfin, t'es d'une génération n'importe quoi. T'es plus jeune que nous, et du coup, est-ce que toi, tu ressens un peu ce blocage d'Internet, non, mais le fait que vous soyez souvent sur votre portable, etc., et que vous privilégiez moins cette communication verbale, on va dire.
Bah, y a beaucoup de mes amis qui passent beaucoup de temps sur leur portable et tout, et moi, je passe aussi beaucoup de temps sur mon téléphone, mais la génération Y avec les écouteurs sur les oreilles, surtout quand je vais en cours... Parce que je passe 2 heures dans le bus, donc je passe 2 heures à écouter de la musique.
Disons que tu portes pas tes écouteurs en permanence sur toi, comme le font certains, ou par exemple, même quand vous arrivez dans des classes, etc., il y en a qui les coincent derrière leurs oreilles, puisqu'ils veulent vraiment pas les lâcher, quoi. C'est ça, en fait, la génération... On va dire que c'est parti de là, la génération Y.
Donc ensuite, j'ai une petite question, vite fait. Combien de temps vous passez sur vos téléphones? Petite statistique.
Ça dépend ce que t'entends passer sur son téléphone.
Je sais pas, bah avec le téléphone dans les mains, quoi, envoyer des messages ou bien même faire une recherche ou quoi.
Un max de temps. Pour envoyer des messages surtout. Je pense que c'est ça. Moi personnellement, c'est ça qui me prend le plus de temps. Disons que j'appelle mes amis, j'envoie des textos à mon copain, etc. Et après, les réseaux sociaux, je vous avoue que les réseaux sociaux, ça dépend de ma wifi en fait.
Je comprends. Bah moi personnellement, bah, je sais que je passe beaucoup, beaucoup de temps sur mon téléphone. Mais je sais par exemple que Mélissa, elle passe pas beaucoup de temps sur son téléphone.
Non, grand maximum, allez, 3 heures. 2-3 heures, c'est tout, quoi. Enfin, voilà.
Tu es une survivor. Tu es une survivante, Mélissa. Je te le dis.
Tu te bats, quoi. Tu te bats.
Ouais. Non, t'inquiète, je suis avec toi.
Moi, ça dépend si j'ai des amis ou pas. Parce que je passe plus de temps à répondre à des messages par téléphone. Donc, si on m'envoie un message, bah, j'ai pas de réponse à fournir, voilà.
Alors on va refaire la question, mais du coup, pour vous qui n'utilisez pas beaucoup vos téléphones, combien de temps vous passez sur un objet numérique par jour? Là, ça augmente, je pense, non?
Ça dépend
là,
les jours. Différent.
Avant, je pouvais passer beaucoup plus de temps. Là, moins, mais je passe quand même pas mal de temps. On va dire, allez, peut-être 5-6 heures sur mon PC. Mais avant, je passais plus de 10 heures sur mon PC. Donc, on va dire qu'il y a quand même une différence.
Ça dépend si c'est en semaine ou en week-end, en fait. Parce qu'on part du principe que je n'utilise pas mon PC en cours, mais...
C'est vrai.
En jour de week-end, ça peut aller jusqu'à 14 heures, je pense. Enfin, en grand max, quoi. Je sais pas.
Bon, moi, je passe environ 3 heures sur mon téléphone par jour. Mais après, c'est tout.
Ouais, disons que... Je pense aussi qu'on est beaucoup bloqué par rapport... Enfin, en tout cas, les générations comme celle de Julie, par exemple, qui sont encore au collège, je pense qu'on a tendance à beaucoup moins utiliser notre téléphone dans la journée, on va dire, puisque de toute façon, c'est interdit. Enfin, c'est interdit dans les collèges. Il y en a forcément qui le font, etc., mais c'est beaucoup plus réprimandé, alors qu'au lycée, ça l'est pas du tout. Et je trouve... Enfin, même dans les cours, par exemple, dans certains lycées, les profs disent oui au téléphone et ils s'en foutent un peu si l'élève suit ou pas, etc. Moi, je connais des lycées qui sont comme ça, et donc, du coup, c'est surtout sur ce point-là que je trouve ça négatif. Je trouve qu'en fait, le téléphone ne devrait pas prendre autant de place.
J'aimerais juste revenir sur le point des écouteurs, parce que j'avais pu voir une émission, et en fait ça disait comme ça que de plus en plus on constate des problèmes auditifs, tant chez les jeunes que chez les personnes âgées, car même si j'ai l'impression que nous tous réunis autour de cette table, nous n'utilisons pas excessivement les écouteurs, je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeunes malheureusement qui l'utilisent de trop, et ce qui fait ben, ça se répercute sur leur santé, quoi. Voilà.
Alors, du coup, Ah, pardon. Aurélie, t'avais pas
dit, excuse-moi. C'est pas grave. Je voulais revenir sur le fait... Bon, bah, maintenant, faut que j'essaie de m'en souvenir, hein. Super. Ah oui, par rapport au lycée. Après, je pense que par rapport au téléphone au lycée, je pense que ça dépend aussi si t'as des amis ou si t'en as pas. Moi, je sais que Mélissa, elle m'accapare tout mon temps. Et du coup, je veux pas être sur mon téléphone à la récré. Je veux pas. Même à midi, j'ai pas le temps avec mes amis. Et du coup, je suis beaucoup moins sur mon téléphone. On sait bien. Voilà, il protège ma vision. Voilà, parce que faut savoir que les écrans portables et tout, enfin, tout ce qui est numérique en général, ça abîme la vision, enfin, les yeux en général. Enfin, ça peut pas vraiment être en précis vu que. Voilà, mais voilà, donc du coup, je pense que voilà, ça dépend si on est sociable ou pas, aussi, c'est un facteur.
Pour revenir sur le problème des problèmes auditifs, le truc, c'est qu'aussi, il y a certaines personnes qui mettent le son tellement fort dans leurs écouteurs que même s'ils l'ont sur les oreilles, on l'entend à côté, et il faudrait qu'ils le baissent. Ils n'ont pas besoin de le mettre excessivement, leur son, pour l'entendre.
Alors ça, pour le problème auditif, avant, il faut savoir que par exemple, avant, sur les anciens iPod, etc., tu pouvais bloquer le son à une certaine... Par exemple, si moi, mon père, il m'avait offert un iPod, c'était l'ancienne génération, il avait même pas d'écran, quoi. C'était le truc vraiment la base de l'iPod. Et en fait, je me souviens qu'on l'avait... Mon père l'avait bloqué, justement, pour pas que je puisse mettre le son trop fort. Et il y a forcément des moments où j'entendais rien, hein, dans les bus, etc., où tout le monde crie autour de moi, je dis là, mais j'entends pas ma musique. Mais finalement, je pense que c'est des paramètres qu'on devrait garder sur certains, enfin, sur certains objets numériques, surtout concernant les plus jeunes. Parce qu'en fait, c'est justement les plus jeunes qui ont tendance à le mettre beaucoup plus fort en faisant pas attention aux dangers et tout, et à tous ces effets négatifs. Et qui, du coup, en fait, sont même pas. Enfin. Sont même pas protégés par leurs propres parents, parce que les parents les mettent en garde en mode t'écoutes ta musique trop fort, mais c'est fini quoi. Ils feront pas une deuxième remarque, etc.
Bah, ils ont gardé cet effet. Je sais pas ce qu'il y en est sous Apple, mais sous Samsung, t'as cet effet là. Quand t'as des écouteurs et que tu commences à augmenter le son, ça arrête d'augmenter le son et ça te met la petite notification. Ça peut être dangereux.
Nous aussi, ils mettent la notification.
Sauf qu'on peut faire OK, voilà. Et puis c'est ça le souci.
C'est enfin, ça.
Le souci. Des fois, c'est bien quoi.
Alors du coup, dans la presse par exemple, l'internet c'est un véritable temple de l'information, tout est devenu libre, tout est devenu... c'est presque fluide en fait. Est-ce que vous pensez que cette libre expression... Parce qu'en fait tout le monde, grâce à internet, tout le monde peut un peu devenir journaliste, on va dire, tout le monde a sa propre info, tout le monde peut en publier une, etc. Est-ce que vous pensez que cette liberté sur internet, cette liberté de la presse, on va dire, est un bienfait ou au contraire, est-ce que ça nous pollue pas un peu... les informations.
Bah, je pense que c'est plutôt un bienfait parce que polluer les informations, je pense pas. Je pense que les médias à télé polluent assez les informations comme ça. Et si on va sur des sites, par exemple l'AFP, t'as l'information que tu veux brute sans aucun point de vue, ou au contraire, ce qui est bien sur internet, c'est que tu peux avoir plein de points de vue différents sur la même information, donc tu peux choisir un peu ce que tu veux, quoi, si tu veux t'ouvrir, enfin, si tu veux interpréter par toi-même, ou voir ce que les autres en pensent, etc. Je pense que c'est plutôt bien fait.
Bah moi après je pense que certes c'est le temple de la liberté d'expression, mais je pense que ça a une certaine limite quand même, je pense qu'on va le voir après, mais voilà, je pense que c'est bien d'un côté puisque les gens maintenant ils peuvent savoir et tout. Bon après c'est toujours pas développé puisqu'on peut voir qu'à Cuba, on l'avait vu en espagnol, qu'il y a des journalistes, par exemple Yaoni Sanchez, qui est un peu, on lui bafoue sa liberté d'expression puisqu'en fait Cuba il a fermé, enfin... Internet, il me semble que ça existe, c'est payant, mais c'est comme en Chine, c'est vachement contrôlé. Et du coup, on peut pas mettre ce qu'on veut, et souvent, c'est une presse unique, un journal unique, avec voilà, des idées bien précises.
Et du coup, pour finir sur cette liberté, on va dire, un peu de la presse, qu'est-ce que vous pensez des politiques qui se mettent un peu au niveau de notre génération, qui est vachement, par exemple, sur YouTube, etc., comme par exemple Mélenchon, lui, il a créé sa propre chaîne YouTube, et du coup, il fait tourner beaucoup de vidéos, etc., pour essayer de toucher le jeune public. Est-ce que vous pensez que c'est juste... est-ce que vous pensez que c'est bien, ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, c'est juste... il fait ça pour sa com, et après, il pensera plus du tout à nous.
Il y a Philippot aussi qui a fait ça, il me semble. Et moi, je pense qu'ils essayent de toucher un public auquel ils savent pas parler, de base. C'est-à-dire qu'ils essayent de reprendre un petit peu ce qu'ils voient vite fait sur YouTube, mais globalement, ils n'y arrivent pas. Ils essayent de prendre le ton décontracté, mais ça leur va pas quand tu vois... quand tu vois leurs meetings, etc., le sérieux qu'ils ont dans les médias en général. Je pense que c'est... Pourquoi pas, ils peuvent le tenter, mais je pense pas que ça ait beaucoup d'impact sur leur communication.
Bah, j'ai vu la vidéo de Mélenchon, je pense qu'il avait fait, si je me souviens bien, c'était genre un genre de clip, pas vraiment un clip musique, mais en gros, il montrait l'avenir de quelques personnes s'il était élu. Après, je pense que Mélenchon, ouais, c'est vraiment le candidat qui avait le plus d'efforts au niveau nouvelles technologies. Mais je pense que c'est un public, enfin, tout comme les femmes en général, puisqu'en fait, en politique, ils ont du mal à avoir le vote des femmes ou quoi, enfin ça se bat un peu pour ces votes-là. Je pense que les jeunes, c'est aussi vraiment un problème pour les politiciens parce qu'ils n'arrivent pas à les toucher suffisamment, même à travers les nouvelles technologies. Et je pense que c'est vachement compliqué pour eux. C'est vrai que quand on voit leur âge qu'ils arrivent à aller sur Internet comme ça, en mode ouais, coucou, c'est moi, je te fais ma petite politique version jeune, bah, je trouve que ça leur va pas du tout, mais c'est plutôt marrant à voir quoi.
Je pense que franchement, ce genre de choses pourrait faire une magnifique émission. Et on parlera de ça plus tard. Mais donc, du coup, est-ce que vous pensez pas que les politiques jouent un peu de ce côté super numérique, etc. Et que. Comment on va dire ça ? Et que. En fait. Non, je sais pas comment l'expliquer. En fait, moi, je pense que, par exemple, Mélenchon, etc., il s'est créé une chaîne YouTube juste pour faire sa com, et que en fait il fait ça, c'est comme si il avait juste posté un truc sur, enfin, en fait je pense que il a pas ça a de l'impact sur nous, mais que c'est un peu une sorte de mensonge, c'est un peu je m'intéresse à vous, je m'intéresse à votre domaine, je m'intéresse à ce que vous faites, etc., mais c'est juste pour récolter vos votes, et après je pars et je m'en fous de votre génération quoi.
Bah clairement je pense que les jeunes, enfin Mélenchon avec la nouvelle technologie, je pense que c'est vraiment une des bases de son programme quoi, enfin c'est de sa publicité, de sa campagne en général, il a vraiment tout misé sur ça, mais je pense que, je le connais pas Mélenchon, mais voilà, mais je pense que derrière cette image là, il doit bien penser, ah putain les petits jeunes là, j'arrive bien à récolter des voix comme ça, voilà, après je pense que... Il faut pas oublier que c'est un enjeu politique et que avec l'élection de demain, le premier tour de demain, je pense que pour eux c'est comment dire, ils jouent vraiment de ça, et je trouve ça dommage parce que par exemple Mélenchon, il avait le soutien de, je sais plus vraiment quel site c'était, je crois que c'était jeu.fr, mais c'est un forum en fait où les gens ragent un peu. Et Mélenchon, il a vraiment utilisé ça alors que quand même il traitait des féministes et tout dedans, enfin je veux dire, il disait vraiment des insultes et tout, et vu que ces gens vont voter Mélenchon, lui il était en mode « Ah mais non, je leur donne tout mon soutien », et je trouve ça vraiment nul quoi, enfin je sais pas...
Je trouve ça un peu hypocrite personnellement, mais voilà. On va faire maintenant une courte pause musicale avec Tropical Love de Dell, et on reprend juste après avec Mélissa qui vous parlera un peu des dangers de l'internet. Thank you.
Tout à l'heure, nous avons essayé de parler donc des bienfaits d'Internet, même si c'est un petit peu dérivé dans les dangers. Donc maintenant, nous allons vraiment nous intéresser aux dangers d'Internet. Donc, je vais vous poser une question. Donc, est-ce que vous pensez que Internet, ça abrutit les gens, par exemple, à travers les jeux vidéo? Donc, Aurélie?
Bah, personnellement, je pense clairement que les jeux vidéo et tout ça, c'est d'une manière, c'est divertissant, mais si une personne est H24 dessus, ça peut vraiment l'abrutir. Enfin, clairement, il va se focaliser juste sur ça. Même, je pensais Big Up à Jonathan, par exemple, les mangas. Je trouve qu'en regarder tout le temps, même regarder que des séries ou des films, à force, t'es un peu hors service, quoi. Enfin,
Jonathan ?
Il y avait une histoire, je sais plus trop parce que ça date, mais il y avait quelqu'un qui était connu dans les jeux vidéo, plutôt dans Call of, mais il n'était pas connu dans la vie réelle. Du coup, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait fait semblant d'une manifestation, il a pris une arme et a battu plusieurs personnes pour justement un petit peu se faire connaître dans le monde réel. Voilà un petit peu comment ça peut abrutir.
Effectivement, ça craint.
Bah, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on fait tout le temps la même chose, on se ferme et forcément, on a l'effet d'un peu abrutir. Donc, que ce soit pour les jeux vidéo ou pour autre chose, je pense que oui, si on passe tout notre temps dessus, ça peut abrutir.
Je suis pareil. Je pense que ça dépend. En fait, ça dépend de l'énergie qu'on dépense dans cette matière-là. Ça peut être aussi les jeux vidéo, mais pas sur un sujet qui est complètement différent d'Internet. Par exemple, le gars qui va regarder un max Secret Story, etc., il sera encore plus abruti qu'un gars qui va jouer aux jeux vidéo, quoi. Au contraire, il sera là dans sa télé, genre comme un légume, ce genre de truc. Après, je pense que les jeux, c'est... Moi, je pense que dans le vrai danger des jeux, c'est que, en fait, ça procure, on va dire, une sensation de bien-être, etc., quand tu gagnes et tout. Et donc, du coup, t'as tendance à beaucoup plus te tourner vers eux. Et ça isole vachement les gens. Je connais des gens, par exemple, genre dans mon bahut, etc., qui sont vachement branchés jeux et qui en ont fait leur sujet de conversation. Et qui, quand ils rentrent, ils font plus leurs devoirs, ils parlent que de ça. Ils parlent de ça avec leurs parents, etc. Et donc, du coup, je trouve que ça isole un max. Et c'est cette ouverture sur le monde qui leur manque, du coup, parce que les jeux, on a beau dire, etc., ça dépend des jeux, forcément. Mais en général, quand t'es parti dans un univers, genre par exemple, comme tu parlais là, Jonathan, le Call of Duty, c'est pas super ouvert sur le monde, quoi. C'est des trucs, ça devient un peu dangereux à partir de ce moment-là.
Mais aussi, les jeux qui sont pas faits que pour abrutir, parce que dans certains métiers, ils utilisent les jeux pour améliorer les capacités. Par exemple, je sais plus si c'est toujours d'actualité, mais l'armée utilise les jeux de guerre pour améliorer les réflexes des soldats.
Après, moi, je pars du principe que ça va peut-être isoler sur d'autres sujets, parce que forcément, le temps qu'on passe à faire ça, on va pas le passer à faire autre chose, mais ça, c'est vrai pour tout. Mais moi, par exemple, j'ai beaucoup d'heures de jeu, je dois être à 4000, quelque chose du genre. en ligne. Et en fait, je passe. Moi, je prends ça un peu comme une passion qu'on a entre amis. En fait, on parle, on discute un peu de tout et de rien en même temps qu'on joue. C'est une bonne ambiance. Enfin, après, oui, quand je suis au lycée, comme on joue avec des amis, on parle de ça forcément. Entre autres, hein, quand même une vie à côté, faut pas. Je fais mes devoirs, par contre, il y a pas de souci là-dessus. Non, je pense que ça fait pas qu'isoler, en fait, ça peut créer des liens. C'est juste que bah faut le comprendre. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais ça peut créer des liens, mais faut avoir joué quoi pour que ça crée des liens.
Donc vous avez beaucoup parlé du mot isolement. Donc isolement, ça pourrait aussi faire référence au fait qu'on peut devenir finalement accro, addict. Donc pensez-vous qu'Internet, ça peut rendre accro ?
Totalement. Totalement. Moi, je pense que Internet, c'est le truc le plus addict qu'on ait jamais créé. C'est un truc, c'est... Justement, on parlait tout à l'heure de liberté, enfin, de liberté presque totale, etc., sur ce genre de truc. C'est un truc que les gens adorent, se sentir libre sur une plateforme, etc., et sentir qu'ils peuvent absolument tout faire. Ça, c'est ce qui nous rend accro, mais à chaque fois, quoi. Et par exemple, arriver et voir que t'as tant de données, t'as tant d'opportunités, tant de portes qui peuvent s'ouvrir à partir d'Internet, que en fait, c'est comme une sorte de nouveau monde. Et du coup, ça a créé une nouvelle expérience. Et comme quelqu'un deviendrait addict à un jeu qui vient de commencer, etc., bah, je pense qu'on est tous, même nous, même par exemple, je vois même nos grands-parents, etc., qui se sont mis à Internet et qu'ils ne connaissaient pas avant, ou à la télé, ce genre de trucs, quoi. C'est... À partir du moment où c'est nouveau et où ça ouvre des portes, je pense que ça, on devient addict.
Nouveau monde, mais je pense que c'est pas non plus l'Eldorado, en
non,
fait, Internet.
Non, justement.
Ouais. Aurélie.
Après, je pense que quand on est plus jeune, on est plus sensible. Enfin, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, je jouais au jeu genre Habbo. Vous connaissez sûrement, je pense. On a tous déjà joué à ça, je pense, au moins une fois. Bon, peut-être pas Mélissa, mais voilà. Pas non plus Jonathan. Bon.
C'est pas Habbo, c'est les Sims. Habbo, ah, c'était Habbo, c'est encore la génération d'avant nous, tu vois.
Ouais, voilà. Mais moi, j'ai beaucoup joué à ça. Il y avait genre des, on appelle ça des rétros. Enfin, c'est genre Habbo version gratuite. Et je sais que quand j'étais petite, limite, je pouvais pas manger. Enfin, si c'était l'heure où je devais jouer, je mangeais pas, quoi. Enfin, j'étais vraiment accro à ça. Bon, avec le temps, c'est passé parce que mes parents, genre, j'avais le droit qu'à 3 heures par jour après, alors que je jouais quasiment toute la journée. Donc après, même ça passe avant les devoirs, quoi. Enfin, c'est vraiment horrible parfois.
Donc, on a pu donc constater qu'Internet, ça pouvait avoir des effets néfastes sur le mental donc des individus. Mais ça peut aussi avoir des choses néfastes sur le physique des gens. Physique, je parle par exemple certaines personnes qui ne supportent pas les ondes. Donc, comme moi par exemple, je ne supporte pas, mais aussi d'autres choses. Donc, est-ce que certaines personnes pensent qu'il peut y avoir des choses néfastes sur l'intégrité des gens? Physiquement.
Bah, physiquement, par exemple, si on est toujours scotché sur le téléphone, donc on a la tête baissée, donc on peut avoir une sorte de scoliose ou autre au niveau de la colonne vertébrale. Après, l'orthographe aussi au français, avec les SMS. Donc, par exemple, moi, je suis très nul en français, donc heureusement qu'il y a l'autocorrecteur au téléphone, parce que même avec ça, en plus, je fais encore des fautes, alors imaginez ça.
Mais justement, est-ce que le correcteur orthographique, ça aide vraiment les gens? Parce que ça les corrige tout de suite, mais ils ne réfléchissent plus, en fait. Qu'en pensez-vous?
Disons que ça aide la personne que t'as en face de toi à pouvoir te lire.
Ouais.
C'est ça, surtout. Mais non, je suis d'accord avec toi, je pense que ça les aide pas vraiment. Enfin, moi, je l'utilise, etc., je vous avoue, c'est parce que j'ai tendance à taper, par exemple, quand je suis en interview ou quoi, parce que je fais beaucoup de radio, etc., quand je tape mon message, en fait, il faut que ça aille super vite. Et donc, du coup, j'ai mon propre langage, et ça, mon téléphone le reconnaît. J'ai des mots enregistrés, etc., et qui, du coup, en fait, je tape dessus, et direct, ça me donne un autre mot, quoi. Mais du point de vue de l'orthographe, etc., je pense pas que ça nous aide. Je pense qu'au contraire, on a tendance à régresser, parce que ça devient beaucoup plus facile de trouver un mot et de faire ce genre de choses. Et donc, du coup, en fait, on pense plus par nous-mêmes. C'est un truc qui est déjà préécrit et on a juste qu'à taper dessus pour qu'il rentre dans notre ordinateur ou même dans notre portable, quoi.
Pour revenir sur les soucis physiques, enfin, on va dire pour les personnes, je sais qu'en Corée du Sud, ils sont très branchés jeux vidéo. Et tout ce qui est compétition, ça prend une dimension disproportionnée. Et les matchs de sport classiques, c'est beaucoup moins regardé que les matchs de sport sur les jeux vidéo. Et le truc qui se passe, c'est qu'il y a des cybercafés et il y a des gens qui... C'est arrivé plusieurs fois que des gens qui sont morts parce qu'ils ont fait... ils sont restés des jours et des jours assis à rester sur les écrans. Donc oui, mais après, c'est... Enfin, faut être malade, quoi, pour rester sans rien devant. Donc oui, ça peut atteindre l'intégrité physique, mais... Faut vraiment être à fond dedans, quoi.
C'est sûr.
Je pense que... je pense que les problèmes physiques, etc., ça, c'est pas forcément au niveau d'Internet. Je pense que ça concerne tout le numérique. Par exemple, les secrétaires, elles ont mal au poignet parce que, bah, à force de taper sur leur clavier, leur poignet, ça va plus du tout. Ils ont mal dans le dos, ils ont des torticolis permanents, etc. Mais ça, je pense que ça vient juste avec la technologie. Pareil pour la télé, au bout d'un moment, vous avez pas mal à la tête quand vous regardez trop la télé? Ça m'est arrivé quand j'étais petite, etc., où on passait des journées avec ma petite sœur ou avec mon père et tout à regarder la télé. Et en fait, au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. Ton cerveau, c'est comme s'il était pollué de trop d'informations, etc. Mais ça, je pense que ça vient plus du numérique que de l'Internet et de nos téléphones en eux-mêmes. Par exemple, pareil, sur nos écrans et tout, les ondes bleues, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle.
La lumière bleue,
ouais, c'est ça. Ça détruit nos yeux, c'est ce genre de truc. Mais ça, je pense que c'est... Justement, tu parlais tout à l'heure, Mélissa, de notre addiction, etc., et on disait qu'on était vachement addict à tout ce qui est numérique. Je pense qu'en fait, on prend plus garde aux dangers, comme tu le disais, Nicolas. Y a des gens qui peuvent passer des journées entières sur leurs ordinateurs sans faire attention à ce qu'ils mangent, etc. Je pense que c'est cette addiction qui nous mène un peu à notre perte. J'hyperbolise, mais c'est ce genre de truc, quoi. En fait, on aime tellement ça qu'on fait plus attention à ce qu'il y a autour et on fait plus attention aux effets que ça a sur nous.
Après, ce que tu disais sur les métiers, par exemple pour les secrétaires, etc., c'est vrai, mais dans tous les métiers, même avant le numérique, il y avait des soucis de santé dans les métiers. Donc, au niveau physique, je pense qu'il y a pire dans les métiers où il n'y a pas le numérique.
Oui, alors il y a pire. Par contre, le numérique tend à changer beaucoup notre corps. Par exemple, il y a des études qui ont été menées sur la taille de nos mains, etc. On a des doigts beaucoup plus longs que nos générations d'avant. Vous vous comparez avec vos arrière-grands-parents, si vous en avez encore, etc. Ils ont des mains beaucoup plus petites. Rien que nos pouces ont grandi de je sais plus combien de centimètres, etc. Et en fait, on s'en rend pas compte, etc. Mais quand tu prends ton téléphone, tu tapes avec tes pouces en général. Même quand tu prends à l'horizontale, à la verticale, n'importe, tu tapes avec tes pouces. Et donc du coup, en fait, ton métabolisme change en fonction de ce que tu utilises comme objet numérique, etc. Et vous verrez que je pense que dans les générations futures, les générations qui commencent à être vachement connectées, etc., ça va encore changer et il y a encore des modifications qui vont se faire à leur corps.
Oula, donc là, on va carrément devenir des monstres, en fait. Hein.
Non, pas des monstres, mais en fait, notre corps évolue par rapport à notre manière de vivre, etc. Et je trouve ça super intéressant de voir à quel point ça peut influencer notre mode de vie peut influencer notre métabolisme, dire. Et le fait qu'on soit tout le temps sur ce genre d'objet, en fait, change aussi notre manière de voir, de voir le monde, notre manière de vivre, mais ça change aussi notre corps sans qu'on s'en rende compte.
Tout à l'heure, Sarah, tu parlais du fait que quand tu étais petite, tu passais beaucoup de temps devant la télévision. Donc, est-ce que tu penses que les parents, ils devraient faire plus attention à ce que font leurs enfants au point de vue numérique, combien de temps ils passent sur les ordinateurs et tout? Donc, pensez-vous qu'on ne fait pas assez attention au niveau du contrôle parental?
Moi, je pense que oui. Je pense qu'avant, au départ, quand les ordinateurs et les téléphones sont arrivés, les tablettes, etc., quand on a commencé à inventer les iPads, etc., je pense qu'on faisait vachement attention parce qu'on savait pas trop à quoi ça allait nous mener. Et donc, du coup, on savait pas trop si c'était encore nocif ou pas. Mais maintenant que ça a été totalement accepté, je pense que les parents, ils font même plus. Je pense qu'il y a des parents, notamment des jeunes parents, etc., qui savent même pas ce que c'est le contrôle parental. Je pense qu'ils s'en rendent pas compte et ils ne se rendent pas compte non plus que ça peut avoir un effet négatif sur leurs enfants et que bah ils ont pas besoin d'être connectés comme ça dès le plus jeune âge. Je connais une fille, son petit frère, il avait son propre. Enfin, vous savez, d'habitude nous quand t'as 3 ans et tout, t'as les jeux d'éveil, t'as les cubes, etc., les Lego. Exactement, les jeux VTech, quoi, les jeux de société, les trucs que tu fais en famille. Là, le petit, il avait son propre iPad, il avait limite son propre ordinateur et tout, il avait sa PSP, machin, il se baladait tout le temps avec ça. Et je pense que si ses parents s'étaient rendus compte que ben, il y avait du contrôle à faire sur ça et que c'était beaucoup plus nocif que ce qu'ils pensaient, je pense que... Il tourne pas mal, mais disons qu'en fait, maintenant, il se prend un peu pour le roi du monde, etc., et il est vachement, je dirais pas sûr de lui, mais disons que ça l'a... Ça a changé beaucoup son caractère et je pense que c'est nocif.
Julie, t'en penses quoi, toi ?
pas grand chose.
Tu penses pas qu'avoir des objets numériques, etc. Julie et moi, on est sœurs, hein, on vous l'avoue. Mais tu penses pas que quand on était petites, etc., et qu'on passait nos journées devant la télé, au final, c'était pas une bonne chose, qu'on aurait dû passer plus de temps dehors et tout. On a passé du temps dehors, hein, je vous rassure, on n'était pas des ermites non plus, on est sur nos télés comme ça, regarder des trucs et tout. Mais disons que mon père, il est vachement calé technologie, il adore ça, il adore ce genre de trucs, il programme un peu, il fait vachement ce genre de choses. Il est plein air, mais il est pas tant plein air que ça, contrairement à ma mère. Et du coup, je pense que ça a beaucoup influencé notre façon de voir le numérique. Non ? Tu penses pas ?
Si, un peu.
Mais... Tu penses pas que si papa, il t'avait pas autant mené vers le numérique, tu serais pas un peu plus... On est sportive, etc., on se bouge, on fait des trucs, mais disons qu'on est vachement calé ordinateur, YouTube et tout.
Ouais, si, je suis d'accord avec toi.
Donc on vient de parler des problèmes que Internet pose au niveau de la santé des individus, mais Internet, ça pose aussi un problème au niveau des emplois. Donc par exemple, je pense aux journalistes qui dans le temps écrivaient leurs articles sur papier, et aujourd'hui les articles ont tendance à se numériser. Donc pensez-vous que Internet, ça contribue à la disparition de certains emplois et...
Alors, vu que quand j'étais plus jeune, quand j'étais en terminale, j'ai fait un stage en mécanique. Et vu qu'avec l'arrivée de Internet, les mécaniciens ont dû avoir des formations pour faire le logiciel au niveau des voitures. Mais les mécaniciens plus âgés, qui n'arrivaient pas à suivre un petit peu le mouvement, ils n'avaient pas le choix d'être renvoyés par l'entreprise parce qu'ils ne pouvaient pas, ils pouvaient pas suivre en fait au niveau technologie. Sarah ?
Je pense que pour revenir à ce que tu disais sur la presse, etc., je pense, comme Jonathan, que en fait, c'est pas le métier. Personnellement, je voulais devenir journaliste, etc., et la presse écrite, je comprends bien qu'elle périsse un peu sous le poids d'Internet, etc. Mais il faut savoir que les journalistes de la presse écrite, ils écrivent, ils peuvent très bien écrire, au lieu de prendre une plume, ils prennent un clavier et ils écrivent leur article, quoi. Je pense que c'est pas dans ce genre de... Je pense que c'est pas dans ce genre de métier que ça cause le plus de problèmes. Je pense, comme Jonathan, que c'est dans les métiers beaucoup plus techniques, où on a tendance à remplacer les hommes par des robots, par des trucs qui sont vachement... vous savez, comme par exemple les imprimantes, etc. Nos imprimantes sont des maisons Wi-Fi, on a tendance à plus trop bouger. Et c'est pareil dans les grandes entreprises. Moi, mon père, il est ouvrier de maintenance. Et l'ouvrier de maintenance, c'est pas... C'est les gens... En fait, ils parlent pas à des gens, ils réparent des robots, et je pense que c'est ça qui va plus. Je pense que c'est ce genre de choses. Par exemple, faire ses courses. Je suis d'accord que, par exemple, le Carrefour Express, etc., le truc où tu commandes sur Internet, c'est super bien. Mais finalement, en fait, c'est ça qui coupe un peu l'emploi, et c'est ça qui nous coupe un peu les uns des autres, parce que, moi, j'aime bien, je vous avoue, arriver à la caisse et tout, même un petit magasin, avoir quelqu'un en face de moi, elle me sourit, elle me dit bonjour, voilà quoi, elle me dit, vous devez telle somme et tout. Et je trouve que... Non, mais je trouve qu'en fait, c'est Internet et ce genre de trucs, les numériques, ça coupe un peu le contact entre les gens. Et je pense que c'est ça dont le monde manque un peu maintenant. Le contact entre les gens, comme le disait Jonathan, je vois pas pourquoi quelqu'un qui arrive pas à suivre le modèle de l'Internet devrait être viré d'une entreprise. Ça fait 30 ans qu'il est là, et maintenant qu'il arrive plus à gérer un simple portable, on le vire et on lui dit non monsieur, vous êtes bon à la casse, non ça ne fonctionne pas comme ça. Il avait des qualités, il a toujours ses qualités, et je vois pas pourquoi il devrait être remplacé par une machine numérique.
C'est vrai, et même, je prends l'exemple de La Voix du Nord, où le directeur adjoint, il avait dit comme ça que maintenant les journalistes, ils doivent pas seulement savoir écrire, ils doivent aussi se spécialiser dans le numérique, parce que c'est un domaine qui a tendance à fortement évoluer. Et donc maintenant le numérique, ça a une place très importante, ou alors même l'entreprise Ford, qui à l'origine faisait surtout du travail à la chaîne, maintenant pour satisfaire les consommateurs, ce sera plus du travail à la chaîne. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, il y aura des espèces de différents stands, et chaque stand aura sa propre technique, en fait. Et par exemple, si un consommateur veut une voiture rouge avec telle spécificité, la voiture, elle va se diriger vers ces stands, en fait. Et donc, du coup, ça va contribuer, malheureusement, à la perte d'emploi. Donc, les conséquences du numérique dans les entreprises. Nicolas.
Je pense qu'il y a ce côté négatif, mais il y a aussi, en même temps, ça détruit des emplois, comme on a cité, ouvriers ou type de gens. Mais d'un autre côté, je pense que ça en a créé pas mal. Je sais pas si ça compense. Je pense pas que ça compense. Mais le nombre d'informaticiens, etc. qu'on a besoin. On a dit, je crois que c'était le siècle de l'informatique ou nucléaire, etc. Informatique, la révolution. Et je pense que ça a créé pas mal d'emplois, même si ça en a dans les trucs industrialisés. Par exemple, bon, ça ne compense pas le nombre d'ouvriers qui ont dû partir, mais il faut toujours des techniciens pour maintenir les machines, etc., qui s'y connaissent. Donc voilà.
Ah, mais justement, ça a créé un max d'emplois au niveau de. On a, par exemple, on prend une usine, n'importe quoi, qui construit des voitures. On met une machine dans cette usine et donc forcément il aura besoin d'un ouvrier de maintenance ou d'un informaticien, etc., qui saura gérer cette machine. Mais je vois pas pourquoi cette machine. Je vois pas pourquoi on met pas les machines sur des trucs que les hommes peuvent pas le faire, enfin peuvent pas faire, et qu'on laisse pas les hommes dans les postes qu'ils occupaient déjà avant. Et au contraire, on leur simplifie la tâche. Moi je pense que ça devrait fonctionner comme ça. C'est pas une machine, elle prend totalement le rôle de l'homme. La machine, elle aide l'homme par exemple à aller chercher des trucs vachement hauts, des trucs vachement lourds, etc. Et ça devient plus une sorte de compagnon et d'aide dans la vie, au travail, etc., ou même dans la vie quotidienne, plutôt qu'un remplacement total. Et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on a tendance à remplacer les gens par des machines au lieu de donner des machines aux gens pour qu'ils les aident.
C'est pas rentable. C'est juste pas rentable, en fait. Non, mais c'est pour ça. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est juste que c'est pas rentable. Et dans ce que tu dis, il faudrait qu'ils payent en plus du salaire de l'ouvrier une machine pour l'aider. Enfin, il serait plus productif, mais... eux, ce qu'ils voient, c'est qu'une machine, ça tombe pas malade, ça demande pas de salaire, c'est un gros investissement, mais voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Quoi.
Donc, après avoir longuement débattu sur les dangers d'Internet sur l'intégrité physique des personnes ainsi que sur leur intégrité mentale et aussi les dangers au niveau des emplois, je vous propose de faire une petite courte pause musicale avec Adventure de Erling.
Nous revoilà en direct. Donc, on parlait des dangers d'Internet. Donc, on a, par exemple, au niveau des dangers, on a donc les challenges qu'on peut voir sur certains, enfin sur les réseaux sociaux en général, qui peuvent être assez dangereux pour certains. Il y en a certains qui sont relativement sans conséquences, comme Ice Bucket Challenge qui était passé il y a un petit bout de temps. Enfin, à part 2-3 qui sont morts parce qu'ils l'ont fait dans un lac, enfin, voilà quoi. Le principe était pas dangereux de base. Maintenant, il y a d'autres défis qui sont arrivés. Par exemple, le Ice and Salt Challenge. Je ne sais pas si vous avez vu. Tu mets du sel sur ta peau après un glaçon et ça brûle, en fait. Je ne comprends pas l'intérêt, mais c'est l'intérêt du défi. Et d'autres. Donc, si vous avez des idées, comment, selon vous, ça peut arriver ce genre de défi, quoi ? Qui peut lancer ça ?
Bah, moi, personnellement, je pense que, comme un peu, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Whale Challenge. J'ai enfin trouvé comment on dit baleine en anglais.
Le Blue Whale Challenge.
Voilà, ouais, c'était ça. Et en fait, c'était, il me semble que c'était sur 50 jours. Et c'était des. Si tu participais, c'était en Russie déjà. Ça s'est produit en Russie et ça se développe en Europe aussi. J'ai vu pas mal de gens le faire. Et en gros, c'est 50. T'as 50 jours et t'as 50 défis à faire. Donc au début, c'est genre. Je sais pas moi, scarifie-toi une baleine sur le bras. Et ça finit par saute d'un étage. Enfin, elle saute de 7 étages et tout, et ça finit en suicide, en fait.
En fait, ouais, ça pousse les jeunes au suicide. Et donc, tu disais, c'est parti de Russie, sauf que maintenant, ça a tendance à beaucoup s'implanter et tout sur nos réseaux sociaux, parce qu'on est tous liés, hein, de toute façon, dans le monde. Et ça a tendance à beaucoup s'implanter en Europe. Et là, du coup, justement, en faisant nos petites recherches, parce qu'on trouvait plus le nom du challenge, c'est des articles, comme par exemple sur la Voix du Nord et tout, qui disent qu'il faut être vachement vigilant par rapport à ça, parce qu'en fait... En général, je sais pas si vous en avez parlé, mais par exemple, moi, j'ai une amie qui est venue faire le Ice Bucket Challenge quand elle était chez moi, etc. Et en fait, on n'en a pas parlé à nos parents, quoi. C'était un truc en mode, je l'ai arrosé avec un tuyau d'arrosage, enfin, on s'en foutait, tu vois. Sauf que du coup, en fait, les challenges, on a tendance à pas beaucoup en parler à nos parents. Et c'est pour ça que là, il faut faire vachement gaffe, parce que les jeunes parlent pas de ça à leurs parents. Et du coup, par exemple, comme tu le disais, se scarifier, etc., sans que personne ne le sache.
Ouais, non mais t'inquiète pas, hein. C'était une très très bonne explication, Sarah. Après, je pense que ce genre de challenge, ça peut être vachement dangereux. Et puis sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui le font quand même, enfin, souvent c'est comme, il y avait aussi le Kylie Challenge, je crois que c'était ça, ouais, Kylie ça. Lips Challenge, ouais. C'était en gros, on devait prendre un genre de un capuchon un truc du genre, ouais, de bouteille ou quoi, et en fait on devait aspirer aux lèvres et ça faisait des lèvres niveau Botox comme Kylie Jenner. Donc après, je pense que au niveau ça, c'est quand même assez dangereux, parce qu'il y a des gens qui se retrouvaient avec voilà, au niveau des grosses traces autour des lèvres, ça faisait très glamour. Donc bon, après
J'ai une petite question. Je sais pas si c'est un challenge, la roulette russe, le jeu là. Je sais pas.
Je pense pas que tu le mettes sur les réseaux sociaux. Ou alors peut-être les Russes. On sait jamais avec eux. Mais non, je pense pas. Enfin, j'ai vu des trucs où c'était version gentille avec un ballon au-dessus. Ça peut être marrant. Mais je pense que tu parles de la vraie version là. Et je pense pas que ça fasse. Je pense pas que ça fasse. Qu'il y ait un challenge.
Ok, d'accord. J'étais pas question.
Et c'est quoi en fait ? Parce que je connais pas du tout.
En gros, tu prends un revolver, donc à 6 coups, ouais. Tu mets une balle au hasard, tu tournes le barillet, et puis t'as une chance sur 6 de mourir et t'es content.
Ok.
C'est le principe. Il y a un mec qui l'a fait qu'un pistolet automatique, il a pas compris le principe et il est mort. Ouais. Et ça s'est vraiment passé.
Ah d'accord. Non, je connaissais pas. J'avais pas entendu parler. C'est très... c'est ouais. Ça quand même, hein.
Lisa.
Mais je pense que souvent, les gens qui lancent les challenges, ce sont un peu les rigolos qui aiment bien faire amuser la galerie. Et bon, et ceux qui acceptent, souvent, bah, ce sont aussi les enfants qui veulent s'intégrer à un groupe, en fait. Et en faisant bah, les cons, finalement, soit ils arrivent vraiment à s'intégrer, ou soit, bah, finalement, ils meurent débilement, quoi. Donc, c'est assez dommage.
Ouais. T'as fait un big up à Boris dans Les Faux Monnayeurs, là.
Ouais, Terminal L, oui.
Ouais. Ouais, je me souvenais, là, je disais, elle est en train de parler de Boris dans Les Faux Monnayeurs. Mmh. Ça sent la terminale littéraire.
Ouais, donc, si, on a fini. On parle aussi, donc là, c'est le souci, c'est qu'il y a des challenges qui arrivent et qu'on peut pas contrôler, en fait, qu'on voit passer, et certains les refont, et il y en a qui meurent, c'est tragique. Et dans le même style, il y a des vidéos qui arrivent, c'est peu des vidéos de l'État islamique, etc., qui fusillent des otages, des vidéos d'animaux en train de se faire tuer, etc. Est-ce que vous pensez que ça... Enfin, est-ce qu'il y aura un moyen de contrôler tout ça, ou... Vas-y.
Bah, personnellement, je pense que Internet, en soi, il est incontrôlable. Je pense que ce qu'on publie, une fois, par exemple, ça peut être facilement, tu mets une photo, quelqu'un met une photo de toi, se moque de toi, ça va sur Facebook, bah voilà. C'est juste comme ça que ça commence, et même si la photo est effacée, pardon, tout le monde s'en souvient, et je pense qu'Internet, bah c'est indélébile. On a beau enlever, même si Google propose maintenant d'enlever, les photos de nous si on le demande, et encore avec l'accord de Google derrière, je pense que même si ça se fait ça, je pense que une fois qu'on a mis sur internet quelque chose, ça reste. Et je pense que, en effet, la stratégie de l'État islamique, c'est aussi que ça se diffuse en Europe et qu'on ait peur. Je pense que c'est une stratégie aussi, c'est une bonne stratégie hein, pour eux, hein, mais après, je pense que c'est vraiment, voilà, c'est servir internet comme arme.
Pour revenir sur ce que tu disais au niveau internet, c'est un des débiles, enfin, le souci, pour revenir sur le sujet du harcèlement rapidement, c'est que si on veut mettre une vidéo et qu'en fait, la vidéo est finalement, on se retrouve avec des moqueries, etc., le souci, c'est que même si on l'enlève, il y a quelqu'un qui peut avoir pris le fichier et le remettre en ligne, et puis là, ça part, c'est incontrôlable, et c'est un autre danger d'internet. Aujourd'hui, on a beaucoup de procédures, même, on va dire, l'État met en place beaucoup de choses sur internet. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que internet, c'est un choix ou c'est une obligation ? Est-ce qu'on peut passer à côté, finalement, pour se protéger de tous ces dangers, etc. Ou est-ce qu'on est obligé d'y aller malgré les dangers ?
Bah, comme on avait dit récemment, pour certains métiers, c'est une obligation. Comme journaliste, t'as pas le choix d'être sur Internet. Mais après, si jamais t'es pas obligé de l'avoir dans ton travail, tu peux faire un choix d'y aller ou pas.
Je pense que dans tous les cas, Internet, aujourd'hui, c'est un peu inévitable. Enfin, je sais que, par exemple, ma grand-mère, voilà, elle s'est mise à Internet aussi. Voilà, après, t'as pas... Enfin, dans tous les cas, au XXIe siècle, c'est quasiment inévitable d'aller un jour sur Internet ou bien un jour toucher à tout ce qui est électronique, je pense. Il y a encore des gens qui vivent en ermite ou bien qui vivent, je sais pas moi, sans Internet, sans rien, parce que par exemple, les gens qui sont sensibilisés par ça, mais après, je sais pas, je pense pas que c'est possible d'éviter ça.
Ça
va ? Ouais, moi je pense aussi que c'est inévitable. Tu parlais tout à l'heure, je sais plus qui l'a dit, mais quelqu'un parlait du fait que maintenant tout passe un peu par Internet, etc., les procédures et ce genre de choses. Et je pense que, voilà, je pense que c'est toi Aurélie. Et je pense que, de toute façon, même si t'as pas Internet chez toi ou quoi, il y a forcément un moment dans ta vie où tu vas devoir y avoir accès, tu vas devoir aller par exemple dans une médiathèque, etc., et aller sur Internet. Et je pense que maintenant, vu qu'on a tendance à beaucoup numériser les choses, etc., je pense que c'est de toute façon inévitable. Et même quelqu'un qui voudra pas avoir d'ordinateur chez lui ou même juste Internet sur son téléphone, etc., quelqu'un qui aura encore les téléphones, vous savez, les téléphones basiques, on envoyait juste des messages et on avait le petit serpent en jeu, là, et tout en fond. Je pense que même cette personne-là devra forcément, à un moment dans sa vie, avoir accès à Internet et devra pas se conformer, parce qu'en fait, c'est pas vraiment du conformisme, mais disons qu'il aura forcément un moment où il devra entrer en collision avec Internet, même s'il le veut pas.
Je pense que ça dépend aussi des gens, mais ça dépend aussi de la société dans laquelle on se trouve, car je pense pas que les Maasai ou alors des autochtones qui se trouvent en Amazonie, ils aient accès à Internet, en fait, donc ça dépend vraiment de la société, quoi.
Ouais, disons que là, ils sont pas du tout plongés dans le numérique, ouais, de toute façon.
Il me semble qu'il y en a qui ont tout ce qui est téléphone portable, bah, basique, hein, forcément, pas smartphone, mais voilà. Donc, autre danger, c'est pour tout ce qui est industrie, parce qu'on sait que sur Internet, on trouve plein de choses telles que films, par le biais du streaming, des séries aussi, et surtout la musique. Je pense qu'on a tous pris des musiques sur Internet. Est-ce que vous pensez que c'est bien de le diffuser autant, de le mettre gratuit, en fait, d'une certaine façon, ou est-ce que c'est dangereux pour... C'est dangereux aussi pour les industries, parce que ça peut les ruiner, pour les acteurs, notamment au niveau du cinéma. Donc est-ce que c'est un bon plan ? Est-ce que c'est bien ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je vois pas pourquoi la culture, elle devrait être payante, en fait. Je pense que tout le monde devrait avoir accès à la culture. Et après, c'est sûr que économiquement, enfin, ça va pas non plus rapporter des sous, par exemple, pour les chanteurs, si jamais on met leur musique totalement gratuite. Donc je pense qu'il faudrait une part donc sur Internet gratuit, mais aussi une autre part, je sais pas, par exemple, bah, les concerts, que ça reste payant, mais tout ce qui est sur Internet, c'est gratuit, en fait.
Bah en fait, si tu regardes ça, il y a beaucoup de films. Enfin, en gros, maintenant, il y a une loi, il me semble, sur même les musiques et tout. Au bout de certaines années, un total d'années, c'est gratuit, tu vois. Ça appartient au domaine de la culture. Je pense que le streaming, par exemple, c'est pas du tout bon, en fait, pour l'industrie du cinéma, ni pour l'industrie de la musique, d'ailleurs. Puisque bah, les artistes, ils vont vivre comment ? Enfin, c'est vrai que l'art, en général, c'est dur de vivre de l'art. C'est dur d'être écrivain, c'est dur d'être artiste, d'être peintre ou quoi. Parce que maintenant, aujourd'hui, on a tendance à tout vouloir gratuitement. Même, je me demande d'ailleurs comment ils vont faire au niveau dans quelques années, quand les CD, quand nous, on aura 40 ans et que nous, forcément, enfin, moi, je sais que personnellement, j'achète pas de CD ni rien parce que ben, ça coûte cher et j'ai pas forcément de poste stéréo ou quoi dans la voiture. Mais même encore maintenant, dans les voitures, on met plus de je sais pas comment on appelle ça, mais dispositif pour mettre un CD, voilà, c'est une phrase qui
va
de lecteur CD. franchement ça me venait plus en tête, j'avais un trou là, mais on va dire qu'on en met même plus dans les voitures, donc c'est vrai que ça écoule, je pense, ces industries loft, hein, j'ai du mal à parler, hein. Du coup je pense que c'est vraiment un mal. Après je pense pas qu'on devrait tout mettre dans la culture devrait pas être totalement gratuite, puisqu'elle l'est déjà d'une part. On regarde dans les musées et tout, tu peux y aller quasiment gratuitement vu que tu as moins de 18 ans et voilà. Mais je pense qu'il y a déjà une part qui est gratuite, mais l'autre part payante, je pense qu'on doit quand même la laisser, ou bien baisser un petit peu les prix, tu vois, du cinéma ou quoi. Pour que, voilà.
Ah, mais justement, le problème, c'est que, en fait, le cinéma a augmenté avec le streaming. Parce que plus les gens regardent, enfin, même moi, hein, je vous avoue que personnellement, mettre 7 euros dans un film, passer 2 heures dans un cinéma, dans une salle fermée, ça me fait mal, tu vois. En tant qu'étudiant et tout, ça fait mal. Après, je pense que si c'est un cercle vicieux, c'est pareil, genre, en fait, je suis mitigée, je suis entre vos deux idées. Mélissa, je suis d'accord avec Mélissa, le fait qu'il y a certains trucs, ça devrait être gratuit, genre, par exemple, les musées, etc., il y a certains musées qui sont payants et tu payes un max pour un musée, alors que finalement, en fait, c'est de la culture, ça devrait être gratuit. Et même s'ils font des prix, etc., c'est des trucs qui devraient être ouverts pour tout le monde, et même le gars qui a pas, par exemple, pas forcément les vieux, mais disons que toutes les personnes qui n'ont pas un revenu assez grand et tout, et qui privilégiaient pas la culture, devraient pouvoir aller vers ce genre de choses sans se dire bah ça fait chier parce que bah après je pourrais pas manger ça, ou je pourrais pas me faire plaisir sur tel truc et tout. Je pense que justement ça devrait être gratuit. Par contre, je pense comme toi Aurélie que ça tue un peu les industries, et que bah par exemple avec le streaming, c'est un cercle vicieux. Nous on veut le film gratuit, du coup on va le voir en streaming, sauf que ça tue l'industrie. Du coup quand on veut aller voir un film qu'on veut avoir, on va se donner un peu conscience, aller le voir au cinéma et tout, ça va nous coûter 7 euros, ça va nous saouler, on va vouloir un film gratuit, etc. Et ça c'est un cercle, en fait on n'en sort jamais. Et je pense que c'est pareil, on parlait tout à l'heure et tout du rentable ou pas. Je pense qu'au force c'est plus rentable, et je pense que c'est ça le problème, c'est que en fait tout revient à l'argent, etc., et tout revient à ça. Et même, par exemple, avec Internet, en fait, on s'en rend pas compte, tout est gratuit pour nous, et à part le téléchargement de logiciels et tout, tout est gratuit, sauf que derrière, ça coûte énormément, et donc, du coup, je sais pas, je suis mitigée entre vos deux idées. C'est un truc que j'arrive pas trop à trouver de solution, personnellement.
Moi, j'ai du mal à acheter des choses sur Internet de base, par exemple, je sais pas, même si c'est des petits prix, genre 99 centimes, etc., j'ai du mal à mettre en place toute une, enfin, on va dire procédure, parce que j'ai pas encore de carte bleue ni quoi que ce soit, pour acheter ça. Et c'est vrai que dans le commerce, enfin, dans les magasins en général, t'as moins de choix, t'as pas ce que tu veux directement. Donc, si je le trouvais en magasin, en fait, enfin, moi, ça me fait moins chier de mettre 10 euros dans un truc en magasin que 1 sur Internet. Mais genre, vraiment, je sais que c'est bizarre, mais... Enfin, je parle pas de tout ce qui est Amazon, etc., mais ça me fait bizarre au niveau de la musique. Et comme je trouve pas ce que je veux en magasin, bah je préfère le prendre gratuitement en plus. Enfin, c'est plus rapide.
Mais pourquoi ça te fait plus chier de mettre 10 euros dans un CD en magasin et au lieu d'un euro dans une musique que toi t'auras vraiment choisi et tout?
Pourquoi ça te fait plus chier 1 euro que 10 euros?
Oui, pardon, c'est ça, ouais. Pourquoi ça te fait plus chier mettre 1 euro dans un truc sur Internet
Parce que j'ai vraiment l'impression d'acheter quelque chose, en fait. Genre, en magasin, j'ai un truc physique. En ligne, je vais avoir un truc, enfin, je sais pas, une sorte de dossier que je peux perdre à tout moment et que je vais... Moi, pour l'acheter, déjà, je vais être obligé d'acheter un ticket dans un bar, PaySafeCard, etc., et tout le bordel, parce que j'ai pas de carte bleue. Donc, voilà, mettre en place toute cette procédure-là pour finalement une musique, voilà. Je préfère le prendre gratuitement et puis tant pis.
Ouais, mais alors du coup, est-ce que tu penses pas que ce serait encore mieux de pas le prendre gratuitement et d'aller l'acheter directement en magasin, parce que tu kiffes les trucs physiques?
Je la trouve pas en magasin. C'est ça le souci. Vas-y.
Bah après, je pense que au niveau tout ce qui est musique et tout, je rejoins assez Nicolas sur ce point-là. C'est vrai que c'est plus facile d'avoir les choses gratuitement. Bon, après, ça m'arrive parfois d'acheter des musiques parce que je les trouve pas, je peux pas les télécharger, ou bien voilà, ou bien j'ai la flemme, du coup je préfère télécharger sur iTunes, mais bon...
Mais iTunes, c'est payant.
Oui, c'est payant. Mais après, ça dépend vraiment. Enfin, je veux dire, si c'est vraiment une musique où, voilà, je me dis, ça coûte pour, je crois, que c'est 1,29€.
Un truc comme ça, c'est 1,30€.
Un truc comme ça sur Apple, enfin sur iTunes. Donc bon, oui, je l'entends. Mais bon, du coup, je pense que, voilà, enfin, ça dépend vraiment de la musique et, voilà, je pense. Mais c'est vrai, c'est plus facile de télécharger.
Mais le problème, c'est qu'après, bon, les CD, ça s'entasse, ça prend beaucoup de place, tandis que ben, un petit lecteur MP3 ou alors juste téléchargé, ben, ça prend beaucoup moins de place, en fait. Donc, bon, après, est-ce qu'on aime les choses immatérielles ou entasser tout, quoi, donc...
Vas-y, ça.
Et qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des bibliothèques musicales en ligne, etc. Comme par exemple, on utilise vachement Spotify maintenant, où on... En fait, c'est des musiques qu'on paye, puisqu'on a un abonnement Spotify, ou même un abonnement Deezer, ou n'importe quel truc et tout. Et, enfin, je sais pas, vous êtes adepte de ce genre de truc, ou au contraire, vous préférez garder la version non payante avec le max de pubs, mais vous vous en foutez d'avoir les pubs parce que justement, c'est gratuit.
Bah, après, j'ai déjà essayé ce genre d'application, et, enfin... J'aime pas, quoi. Même quand c'est gratuit, genre Deezer... Bah, Deezer, ça va encore, hein, mais Spotify, non. C'est pas possible, les pubs, elles sont tout le temps, enfin. Voilà, mais moi...
Toutes les 10 minutes, t'as 3
ouais,
pubs.
Ouais, je sais pas. Et puis, je trouve ça cher, quand même, pour...
Alors, je fais un peu la pub, parce que moi, j'adore Spotify, genre, je suis tout le temps dessus et tout. Je vous avoue que je le paye pas, parce qu'en fait... Honnêtement, pour nous les jeunes, etc., ça fait cher. C'est clair que ça fait cher. Malgré le fait que t'aies toutes tes musiques et tout sur toi, et etc., ça fait cher. Et donc, du coup, ça rentre pas forcément dans le budget. Petite pub pour Spotify. Ils font maintenant un abonnement étudiant qui doit être à 4€ ou 5€ ou un truc comme ça. Et donc, du coup, pour ceux qui veulent ne pas télécharger gratuitement et avoir... Parce que personnellement, avant, je téléchargeais, genre, vous savez, convertisseur YouTube, etc. Mais la qualité... Oh bah papa, c'était fini quoi, t'entendais rien et tout, il y avait des trucs comme ça, et il fallait vraiment bien choisir ta musique. Et maintenant YouTube a tendance à mettre des contrôles vachement sur ses musiques et tout, et dire bah non, finalement celle-là vous pouvez pas la prendre. Julie me fait les gros yeux parce que Julie elle est tout le temps sur YouTube, elle fait tout le temps ce genre de trucs.
Il y a que deux musiques qui me l'ont fait, c'est des Julien Perretta.
C'est
toutes
vrai
les autres j'arrive.
Ça m'arrive tout le temps, les trucs Vevo et tous les chaînes officielles, et à chaque fois elle me bloque. Et donc du coup, si vous voulez ce genre de truc, il y a... Disons qu'il y a des alternatives pour ne pas avoir tout gratuit et faire vivre un peu cette industrie sans payer la blinde et devoir payer absolument tous les coûts derrière.
Ou bien après, au pire, on écoute des musiques libres et ce
c'est vrai, les musiques libres.
D'ailleurs, les musiques libres, on en trouve pas mal. Il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Musique Libre.
C'est bien trouvé.
C'est bien trouvé. Franchement, ils ont cherché l'originalité et tout. Mais franchement, il y a des musiques qui sont vachement bien. D'ailleurs, c'est celles qu'on passe quand on fait l'émission. Je les choisis et on les passe. Et franchement, elles sont plutôt pas mal, je trouve. Et elles méritent d'avoir le coup d'œil. Et puis au moins, si on les décharge, on se fait pas choper. On se prend pas d'amende ni rien. Puisque de toute façon, c'est gratuit. C'est libre de droit. Donc,
c'est vrai.
Bon, bah. Si tout le monde a fini sur ce sujet-là, le débat touche à sa fin, je vais y arriver. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain débat.